quelques lettres qui font un nom, le mien à moi, celui du père avant lui et encore avant lui, un nom qui vient du village, du métier, de génération en génération, un héritage, un souvenir, une signature, une partie de l'âme dans l'Égypte antique, le renne, le nom secret.
Pascal Paradou.
5 ans après le consentement, récit implacable et autobiographique de l'emprise d'un écrivain pédophile sur une jeune fille, Vanessa Springora plonge dans le passé familial pour retracer la vie de son père, de son grand-père et de son nom. Patronyme est le titre de cette enquête, de ce nouveau livre assez vertigineux qui vous fait traverser l'Europe et l'histoire avec un grand H et qui nous fait prendre conscience que, comme vous le dites, finalement, un nom, c'est complexe, même si on s'appelle Dupont ou Durand.
C'est complexe parce que, ça, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser comme ça, c'est un nom, c'est juste un mot. Et c'est assez fascinant de voir à quel point ça peut contenir de dimensions différentes. Notamment, je dis souvent qu'un nom, c'est à la fois vertical et horizontal. C'est-à-dire que ça représente à la fois une lignée, celle de nos aïeux, nos ascendants. Donc, ça induit forcément un héritage, mais aussi une dette, une obligation de loyauté. On dit souvent « honore ton nom, ne salis pas ton nom ». C'est une des premières injonctions qu'on reçoit. C'est la première surface sociale aussi dans nos interactions avec le monde. Un petit enfant, quand il apprend son nom de famille, c'est pour rentrer en collectivité, dans une crèche, à l'école. C'est le moment où il devient une personne sociale en dehors de son cercle familial. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une origine géographique, culturelle, régionale, qui induit aussi d'autres héritages, d'autres loyautés, d'autres formes d'appartenance dont il faut parfois savoir un petit peu se dégager ou s'affranchir.
Les noms de famille, c'est, dites-vous, aussi le début de la propriété, du capitalisme et du nationalisme.
Oui, j'y vais fort.
Vous y allez fort, oui.
Mais c'est vrai, c'est bon, notamment pour ce qui concerne l'histoire de mon grand-père qui portait ce nom donc, d'origine, ce nom allemand Springer, qu'il a fait modifier pour Springora. Il a évidemment hérité à ce moment-là de l'exaltation du nationalisme allemand qui était celle de l'époque où il est né. Il est né en 1912, juste avant la Première Guerre mondiale. Déjà petit garçon, j'ai retrouvé des photos de lui avec une espèce de calot de soldat pendant la Première Guerre mondiale et qui a été vécu, évidemment, comme on le sait pour tous les germanophones, comme une humiliation. Donc, qui induisait un désir de vengeance, de réparation, dont il a hérité, forcément, et qui, entre autres choses, l'ont précipité dans les bras d'Hitler.
Alors, vous citez le nom de votre grand-père, Springer, quand vous vous appelez Springora, et c'est dans ce décalage, justement, entre ces deux noms, avec ce A et ce O supplémentaire, que s'inscrit votre livre et que s'inscrit votre quête. Vous avez toujours eu le sentiment que ce nom de Springora n'était pas tout à fait le vôtre.
Oui, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que mon père, qui avait une propension au mensonge assez maladive et qui est devenu très franchement mythomane au fur et à mesure des années, déjà dans mon enfance, me racontait un certain nombre de fables concernant ce nom de famille. Et en réalité, il m'avait transmis une partie de ce secret de famille qui était complètement tabou, la modification de ce nom, en me disant, je devais avoir entre 5 et 6 ans, que notre véritable nom était Springer von Gerschbad. Alors la moitié de l'histoire est vraie, l'autre est complètement imaginaire. Et c'était une façon de nous situer comme ça dans une lignée aristocratique, mais déjà germanophone. Sauf qu'à un moment donné, c'était Springer von Carpath. Donc ça renvoyait aussi à cette zone de l'Europe centrale, entre la Roumanie, la Transylvanie, la Tchécoslovaquie, dont mon grand-père était effectivement originaire. Mais j'ai toujours su qu'il y avait une histoire qui se cachait derrière ce nom, qu'il y avait une zone d'ombre. Et c'est seulement quand Internet est apparu, finalement, que j'ai commencé à faire des recherches. Et là, je me suis aperçue que ce nom n'existait pas nulle part dans le monde.
C'est un apax.
C'est un apax pour les linguistes. Effectivement, c'est un nom inventé, une création totale et qui ne recouvre que quelques membres de notre famille exclusivement et qui disparaîtra donc après nous. Et notamment du fait que mon oncle et mon père n'ont eu que des filles. Enfin, je ne veux pas dire que des filles, mais enfin, il se trouve que la transmission du nom étant patriarcale, ce nom s'arrêtera avec nous.
Mais les femmes peuvent garder leur nom quand même et le donner à leurs enfants.
Alors c'est vrai que la loi a été modifiée en 2018, je crois, et c'était vraiment un très grand progrès, bien que, au fond, quand on remonte la chaîne de la généalogie des noms de famille, il s'agit toujours de noms d'hommes. Même si j'avais transmis mon nom, ça n'aurait jamais été que le nom de mon père. Donc, pour que les femmes puissent s'inventer des noms à elles, il faudrait rompre totalement avec l'histoire et repartir à zéro, faire une espèce de reset et dire à partir de maintenant, les femmes peuvent se nommer elles-mêmes et transmettre leur propre nom.
Cette réflexion autour de votre nom, cette enquête, ce trouble autour de votre nom, est-ce qu'il s'est exacerbé au moment de l'apparition du consentement ? Parce que tout d'un coup, vous qui étiez, et c'est pas vous faire offense, tout à fait inconnu, vous devenez absolument célèbre, votre nom est sur toutes les lèvres et ce livre aura été, il y a 5 ans, un coup de tonnerre.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, j'en parle d'ailleurs à un moment, puisque de toute façon ce livre est structuré autour de la question du nom et notamment des notions d'anonymat et de renommée. C'est vrai que je me suis sentie assez mal à l'aise au moment où le consentement a reçu l'accueil extraordinaire qu'il a reçu, parce que mon nom était sur toutes les lèvres, parce que je l'entendais à la radio, je le voyais imprimé dans les articles de journaux, et je ressentais comme une espèce d'inquiétante étrangeté, comme si ce nom ne m'appartenait pas tout à fait, comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Et je pense, à l'époque, je ne connaissais pas encore véritablement l'histoire de ce nom, de sa modification, mais mon père étant mort quelques jours après l'apparition du consentement, j'ai été confrontée donc, à un certain nombre de documents tout de suite qui ont suscité ce début d'enquête. Et j'ai compris qu'il y allait avoir des révélations, évidemment, mais j'ai compris surtout que sortir de l'anonymat à ce moment-là, c'était en fait trahir mon grand-père. Trahir le choix qu'il avait fait de se cacher, de maquiller son passé, de l'escamoter avec ce changement d'identité. Voilà, donc effectivement, ça a été une forme de malaise. Et dans le terme de renommée, je préfère entendre l'histoire, enfin, la notion de se renommer une deuxième fois, ce qui a été le cas pour mon grand-père et ce qui, je considère, est aussi le mien finalement, en décidant de redonner un autre sens à ce nom, qui est celui de, au contraire, de révéler la vérité, aller vers une quête de vérité plutôt que vers le mensonge ou la falsification de l'histoire, comme ça a été le cas de mon grand-père.
Mais du coup, ce nom est une fiction, Springora.
Oui, c'est une fiction. Et c'est un début de fiction et c'est, comme le dit Pérec, une sorte d'ouvroir potentiel de littérature. Je pense que les noms de famille, en général, quand vous discutez avec les gens, c'est ce qui m'arrive beaucoup en ce moment, ont tous quelque chose à dire. Ils racontent beaucoup, non seulement de la grande histoire, mais aussi des parcours individuels, de migration, de transformation, d'identité, alors francisation, en l'occurrence en France, puisqu'il y a beaucoup de graphies qui ont changé aussi, parce que involontairement, des officiers de l'état civil ne comprennent pas bien un nom étranger et l'écrivent d'une mauvaise manière. Enfin, il y a beaucoup d'histoires à raconter à travers les noms de famille, oui.
L'énigme d'un nom, le vôtre, Vanessa Springora, et tout d'un coup j'entends tous les noms de famille comme des histoires à raconter. Canadien né à Alger avec un nom tropical, c'est Mehdi Kayenne, dont on annonce le 5e album avec ce titre « Bye, mon bébé, bye ma belle ».
Cloche sonne et tu me hantes. Je marche seul dans les rues glacées, avec dans ma tête une ambulance pour m'accompagner. C'est Noël, y'a des opens, des offres de vent pour marcher. Mais la peine que j'ai dans le ventre, personne ne veut la racheter. Bye mon bébé, bye ma belle, je garde un peu de rêve sous. Dans le ciel vermeil, j'invoque ton prénom. Alors que tu sommeilles sous les bombes, j'aurais espéré meilleur réveillant que genouillé au cœur de l'hécatombe. Mais bon, mais bon, mais bon. À ce jour, vers de gris, où je te retrouve sans vie, aux pierres cousues par la guerre, ce sourire que tu m'as pris. Bye mon bébé, bye ma belle, je poètes dansent pour avaler leur larmes, tandis que les anges prennent les armes. Le silence plaide coupable. Cet enfant, c'est le mien, sous les sangs du genre humain. C'est l'époque des assassins. Ce qu'ils vendent, on en veut bien. Bye, mon baby, bye, ma belle. Je garde pour toi un souvenir. Bye, mon baby, bye, ma belle. Que nous réserve l'avenir.
Mehdi Cayenne sur RFI et Vanessa Springora, aujourd'hui notre invitée pour la sortie de son nouveau livre « Patronyme, une enquête généalogique pour comprendre l'histoire cachée de votre nom ». Et en fait, tout commence, Vanessa Springora, le livre commence avec la mort de votre père, que vous n'avez pas vu quand même depuis presque 10 ans, 9 ans très précisément, écrivez-vous. Pourquoi cet éloignement ?
Alors justement, ça a toujours été un mystère, cet effacement de ma vie de la part de mon père. Je l'ai compris au fur et à mesure de cette enquête. C'était lié en fait à son incapacité à être père, d'une part, et ça remonte certainement à sa propre relation avec son père, au fait peut-être de n'avoir jamais connu la véritable identité de son propre père, donc mon grand-père, qui l'empêchait d'assumer la paternité en général. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui s'est éloigné de tous, de tout le monde, qui en réalité était très atteint psychiquement à plusieurs titres, qui a été extrêmement malheureux parce qu'il a refoulé toute sa vie son homosexualité. Ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis aperçue après sa mort en découvrant son appartement et un certain nombre de traces qu'il avait laissées comme ça derrière lui. Il a avoué à son meilleur ami 6 mois avant sa mort qu'il avait gâché sa vie à force de lutter contre ce qu'il était profondément. Tout ça est tragique parce que c'est une espèce de vie contrariée et qui, j'en suis sûre, est le fruit de ce non-dit qui a été en fait le mensonge sur le passé de son propre père, ses accointances avec le nazisme, les choix qu'il a fait donc très jeune, et ce changement d'identité en 1946 précisément à la naissance de mon père, qui est l'enfant de la guerre, l'enfant d'une espèce de refoulé qui est celui d'une jeune Normande qui couche avec un soldat allemand en France.
Alors vous ne l'avez pas vu depuis 9 ans, mais quand même vous avez eu quelques échanges, puisque dans le livre vous dites qu'il était fier de vous, qu'il vous l'a dit à la sortie du livre précédent, Le Consentement. Fier de quoi ? D'avoir osé parler ?
Alors j'ai cru qu'il s'agissait de ça, que c'était une façon de me dire que j'avais bien fait de libérer cette parole. Mais en relisant ce texto assez laconique, qui sont les derniers mots que j'ai reçus de mon père finalement, et qui en effet ne m'avait pas écrit depuis plus de 9 ans, je me suis aperçue que c'était peut-être d'autres choses dont il parlait, peut-être le fait d'avoir assouvi son désir à lui d'écriture, puisque j'ai trouvé un manuscrit dans son appartement qui avait été refusé par les éditions Gallimard, qui s'appelait Le Briquet, un roman policier qui malheureusement a disparu à l'occasion de tous ces déménagements que j'ai dû faire, de toutes ces affaires en triant son appartement. Mais je me suis aperçue que mon père était un écrivain en herbe et qu'il n'avait jamais révélé à personne finalement ce désir profond d'écrire, et probablement qu'il a ressenti une forme de fierté que sa fille, bien que nous n'ayons plus de rapport, de relation tous les deux, ait accompli son rêve.
Dans l'appartement où votre père meurt, vous trouvez donc ce manuscrit, vous trouvez aussi des photos qui vont être le déclencheur du livre et de votre enquête, deux photos où on voit donc votre grand-père avec sur ses vêtements les symboles nazis, c'est-à-dire la croix gammée et l'aigle impérial. Quand vous découvrez ça, vous dites « oui, c'est évident, je le savais » ou c'est un choc total ?
Non, c'est un choc total parce que d'abord ça contrevient complètement au récit originel, c'est-à-dire au roman familial tel qu'on me l'avait transmis jusque-là. C'est-à-dire qu'on m'avait raconté que mon grand-père était un citoyen tchécoslovaque qui avait été enrôlé de force dans l'armée allemande, comme c'était le cas de beaucoup de soldats, de citoyens tchèques au moment de l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie, qui avait déserté en s'opposant frontalement aux ordres qui lui avaient été donnés, qui ensuite avait fui également le stalinisme et s'était donc réfugié en France. Et de fait, c'est d'ailleurs le récit qu'il a donné aux autorités françaises quand il a fait sa demande d'asile politique à l'OFPRA. J'ai pu avoir accès à ce dossier, j'ai vu qu'il s'était fait passer pour un déporté au titre du travail obligatoire en Allemagne, qu'il aurait travaillé dans une usine de turbines électriques de force, et qui se serait réfugié ensuite en France. Tout ça est complètement faux. Au fur et à mesure donc, de l'enquête que j'ai menée, j'ai découvert qu'il avait d'abord anticipé l'annexion de son pays par l'Allemagne en partant travailler à Berlin, où il s'est engagé dans la police de l'ordre. Et ensuite, effectivement, il a été enrôlé dans l'armée, mais toujours en tant que policier, pas en tant que soldat de la Wehrmacht. Ce qui lui donnait un statut un peu particulier, de privilégié d'ailleurs. Voilà, donc évidemment, tout ça a été extrêmement choquant pour moi, d'autant plus que j'aimais beaucoup mon grand-père, que c'était un homme que j'ai connu jusqu'à mes 11 ans, qui a été très important pour moi et pour qui j'avais beaucoup de tendresse et d'affection.
Et tout d'un coup, de cette pelote, vous tirez le fil et vous découvrez une succession de mensonges sur à la fois sa vie, sur son identité, sur son nom, mais sur la langue aussi, parce qu'il n'est pas du tout tchèque. Enfin, la langue tchèque n'est pas du tout sa langue, c'est la langue allemande.
Oui, bien sûr. Alors, ce sont des mensonges qui sont destinés probablement à la libération, à s'intégrer en France, parce que portant d'abord un nom allemand, Springer, c'était certainement compliqué de s'installer ici et de fonder une famille. Et puis, il y a évidemment sa complicité avec le régime nazi, son engagement, puisque j'ai découvert aussi qu'il, entre 40 et 42, il avait adhéré au parti d'Hitler. Donc, à un moment donné, où d'ailleurs, en tant que policier, il ne pouvait plus ignorer les crimes nazis et notamment le sort réservé aux Juifs. Donc, évidemment, tout ça, ce sont des choses qu'il a essayé de dissimuler à la libération, aussi pour échapper aux tribunaux de l'épuration dans son propre pays, puisque j'ai découvert qu'il avait été aussi, il avait fait l'objet d'une enquête en Tchéquie, parce qu'il appartenait tout simplement à cette communauté sudète. Donc c'est toute une histoire que je connaissais très mal, qui est une communauté germanophone qui vivait sur le territoire tchécoslovaque. Et comme dans beaucoup de ces pays d'Europe centrale, il y a plusieurs nationalités sur un même territoire. Et donc effectivement, j'ai découvert à cette occasion que la langue maternelle de mon grand-père était l'allemand et pas du tout le tchèque, comme il me l'avait fait croire.
Cette histoire, votre père la connaît ? Ou c'est déjà pour lui un secret de famille ?
Alors, j'ai découvert aussi que mon père avait en fait fini par deviner le passé de son père, tout simplement parce que je crois qu'il est tombé sur les mêmes photos que celles que j'ai vues. Une des deux photos dont vous parliez tout à l'heure est une photo en tenue d'escrime de mon grand-père. L'escrime étant le sport d'élite des SS hein, à l'époque, et c'est d'ailleurs Heydrich qui l'a introduit comme tel. Je pense que mon père, en fait, a su, quand il a vu ces photos, d'ailleurs, son premier réflexe a été de demander à son père de faire lui-même de l'escrime, et on voit bien le mécanisme à ce moment-là de répétition qui se met en place quand il n'est pas possible de parler, d'affronter en fait un tabou, une chape de plomb, qui est celle du silence dans une famille. Et c'est souvent le cas dans les générations directes, quand on est en contact avec son père et sa mère, qui ne veulent pas parler. C'est très très difficile de soulever cette chape. C'est plus facile pour la génération qui suit, encore pour les petits-enfants en général. Donc mon père a su, mais je pense qu'il n'a jamais pu en discuter avec son père, puisque mon oncle, qui est toujours vivant, qui est donc le frère de mon père, m'a confirmé qu'il n'a jamais pu obtenir d'informations sur le passé de son propre père, y compris sur la façon dont ses parents s'étaient rencontrés d'ailleurs.
Mais votre père partageait, pour sa part en tout cas, un certain nombre d'idées qui étaient plus proches de celles de son père que des vôtres, étant lui-même plutôt adepte de positions et d'une idéologie d'extrême droite.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que il a très jeune, effectivement, adhéré à des idées d'extrême droite. Il a été militant de l'OAS. Mais ce sont des choses qui sont revenues à plusieurs reprises dans sa vie. À d'autres moments, effectivement, il était très proche des idées du Front National. Et j'ai assisté à des conversations assez houleuses, d'ailleurs, dans des restaurants où il était très franchement antisémite. Mais à d'autres moments, il se disait de gauche. Donc, c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais eu de boussole politique et qui, je crois, avait besoin, par mimétisme, en fait, d'endosser à certains moments de sa vie les valeurs et les idéaux qu'il prêtait à son père, sans avoir pu en parler officiellement avec lui.
Vanessa Springora, être fille et petite fille de nazis ou d'extrémistes, en tout cas, quelles conséquences, qu'est-ce que cela fait ? Point de vue de Sylvie Angèle, qui est psychiatre et psychogénéalogiste.
Il fut un temps où on disait tout se joue avant 6 ans, et puis on est revenu là-dessus en disant que tout ne se joue pas avant 6 ans. Et de la même façon, le déterminisme familial, c'est un poids qui serait beaucoup plus important. Donc, évidemment, on ne va pas être déterminé, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont nous influencer dans notre vie, et que, heureusement, nous avons une grande liberté de faire nos propres choix. Par contre, clarifier ce qui a pu se passer dans notre famille nous aide à développer ces degrés de liberté.
Vanessa Springora, écrire, c'est clarifier, c'est gagner de la liberté.
Oui, c'est aussi déjà briser un silence, faire advenir un chemin, en tout cas vers quelque chose qui se rapproche davantage de la vérité, encore que je n'ai pas la prétention de remplacer ce récit falsifié par quelque chose qui serait une vérité pure, ne serait-ce que parce que mon grand-père n'est plus là pour me dire, lui, dans son âme et conscience, ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi il a fait ses choix. Je ne peux que poser des hypothèses.
Oui, et vous dites d'ailleurs qu'il y a toujours quelque chose d'indéchiffrable dans sa vie.
Bien sûr, d'indéchiffrable et d'insaisissable. Et d'ailleurs, je pense que chaque fois qu'on est dans une perspective littéraire de biographie, d'exofiction, on se heurte à cette difficulté-là, c'est qu'il y a quelque chose d'utopique à vouloir saisir la totalité, enfin l'exhaustivité d'une vie. Mais ça m'engage à transmettre cette histoire, en faire aussi un travail de mémoire. Et ça m'explique aussi beaucoup de choses sur qui je suis, qui était mon père. Ça éclaire beaucoup de zones d'ombre dans nos deux vies.
Et vous vous amusez de l'étymologie du nom de famille originel Springer, qui veut dire « répandre la parole ».
Oui, ça m'a amusé de découvrir que c'était une des étymologies. Alors Springer veut aussi dire le sauteur ou le cavalier aux échecs en allemand. Ça veut dire plein de choses, mais c'est entre autres, oui, c'est la même racine que je prononce très mal, parce que je ne parle pas allemand. Et effectivement, qui veut dire parler, répandre la parole.
Mais ça vous va bien.
Un peu la mission que je me suis donnée tout à fait inconsciemment, sans connaître l'étymologie réelle de mon nom.
Alors, votre livre, Vanessa Springora, peut se lire comme un livre d'histoire. On y apprend beaucoup de choses, notamment sur cette région des Sudètes, mais aussi comme une enquête policière. Mais il y a toujours cette réflexion sur le nom vrai ou faux, réel ou usurpé. J'aimerais que vous nous lisiez un court extrait de Patronyme.
En hébreu, Dieu est désigné par le simple vocable Hachem, qui signifie le nom. Au commencement était le verbe, nommer, c'est se considérer l'égal de Dieu, lui voler sa prérogative. Mon grand-père s'est octroyé le droit de réécrire sa vie en se créant une nouvelle identité. Il y a quelque chose de démiurgique dans cette démarche, mais aussi de l'ordre de la création littéraire qui me touche. Joseph s'est réinventé en tant que personnage de sa propre existence. Ce que j'ignore, c'est ce qu'il a gommé au passage en donnant naissance à ce nouvel homme. La fiction commence là, avec ce nom d'emprunt. Quelles qu'en soient les motivations, les exemples de recours à un faux nom ne manquent pas. Que ce soit sous un nom d'artiste, un nom de guerre, un nom de plume, un nom de scène ou un simple nom de circonstance, on trouve les réfugiés qui fuient les persécutions et la misère, les espions cachés derrière leur légende, les repentis de la mafia sous protection rapprochée, les usurpateurs d'identité, les imposteurs de tout poil, les martingères, parfois plus séduisants que l'original, et puis les écrivains.
Les écrivains, et de citer Colette ou Apollinaire, aujourd'hui, Vanessa Springora, vous ressentez quoi à l'énoncé de votre nom et que provoque ce livre auprès des lecteurs? Le livre est sorti il y a à peu près un mois maintenant, donc vous avez, j'imagine, rencontré plein de gens qui doivent vous raconter des histoires de noms. Je ne vais pas vous raconter la mienne, mais...
C'est dommage.
Vous pourrez.
Mais oui, ça, c'est très intéressant parce que... Alors, pour répondre à votre première question, d'ailleurs, je crois que... Je n'ai plus ce sentiment d'étrangeté dont je vous parlais tout à l'heure sur mon nom quand je le vois écrit. Et ça, c'est très étrange. C'est comme si je m'étais réconciliée avec cette part d'ombre de notre histoire en finalement la dévoilant pour moi-même et pour les lecteurs et les lectrices. Et c'est très intéressant, toutes ces rencontres que je fais avec le public à l'heure actuelle, notamment en librairie ou dans les festivals, parce que tout le monde a une histoire avec son nom. Chaque nom raconte un pan de la grande histoire, alors la grande histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, mais Ce sont alors évidemment souvent des histoires qui sont porteuses de toutes les tragédies du XXe siècle. Il y a beaucoup d'histoires qui me sont transmises avec des noms qui sont plutôt liés à des considérations sociologiques, par exemple des noms qui ont une connotation très populaire ou au contraire aristocratique, des personnes qui m'ont dit avoir fait effacer par exemple la particule parce qu'ils avaient des convictions républicaines et qu'il était hors de question pour eux d'hériter de valeurs qui n'étaient pas les leurs, des personnes qui me parlent aussi du sentiment de dette qu'ils ont, de communauté qu'ils découvrent du fait de porter par exemple un nom juif ou un nom arabe aujourd'hui, et qui en raison de ce nom ne vont pas porter le même regard sur le conflit israélo-palestinien. Ça vaut aussi pour d'autres nationalités. Enfin, ça montre à quel point un nom nous détermine, et en même temps ça raconte aussi ce que c'est que la généalogie, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, en fait, par son nom de famille, et il n'y a pas grand-chose qui nous sépare, finalement, des débuts de l'humanité par notre nom.
Vous disiez être réconcilié un peu avec vous-même ou avec votre nom. Le livre qui est, et c'est aussi fort que dans Le Consentement, sans jugement aucun, vous racontez, à l'extrême fin du livre, finalement, comment vous êtes aussi post-mortem réconcilié en partie avec votre père, puisque vous découvrez cette double vie, ce poids du silence, cette homosexualité non assumée, cette relation avec un jeune arabe, ce qui, pour quelqu'un d'extrême droite, est encore pire que toute autre chose. Et vous dites, il m'arrive aujourd'hui d'avoir envie de prendre dans les bras l'enfant que tu as été.
Oui, alors c'est dans un chapitre qui d'ailleurs s'appelle « Au nom du Fils » et qui en réalité clôt le livre qui s'est ouvert sur un autre chapitre qui s'intitulait « Au nom du Père ». Vous savez, c'est ce moment où on s'aperçoit que ses parents, eux-mêmes, ont eu une vie tout à fait extérieure à nous et ont aussi été des enfants. Et ce qui m'a énormément touchée tout au long de ce parcours de vérité, c'est de prendre conscience à quel point mon père avait souffert de ce non-dit, qui effectivement a été un poids terrible dans sa vie, et à quel point son enfance a été dure à tout point de vue, ne serait-ce que parce que il avait effectivement cette orientation sexuelle dont je crois qu'il a fait la découverte assez tôt, comme c'est toujours le cas, et ça n'était pas possible dans sa famille, notamment avec son père, qui avait en horreur l'homosexualité, et ça renvoie d'ailleurs à une des idéologies du nazisme, qui a été la persécution aussi des homosexuels et la déportation des communautés, on dirait LGBT aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça absolument poignant de penser à ce petit garçon qui ne pouvait pas dire qui il était face à ce père qui était porteur de valeurs de haine.
Et vous diriez réconciliation ?
Réconciliation au post-mortem, oui. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pu avoir ces discussions avec mon père, de ne pas avoir pu partager mes découvertes avec lui. Il me semble que ce livre est effectivement une sorte de sépulture, je le dis un peu pour lui, parce qu'il est mort dans une misère et une solitude absolue. Et aujourd'hui, je regrette un certain nombre de choses. Je comprends davantage sa difficulté de vivre. Et je crois que oui, j'ai pardonné beaucoup de son indifférence à mon égard.
Merci Vanessa Springora. Patronyme est édité chez Grasset, tout comme l'était Le Consentement. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Merci à vous et
merci
à demain.
Merci beaucoup.